BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euronet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Le président de la Commission se verrait bien en commandant en chef des troupes européennes. Je le cite, une armée commune à tous les Européens ferait comprendre à la Russie que nous sommes sérieux quand il s'agit de défendre les valeurs de l'Union Européenne. Voilà, c'est ce que vient de déclarer Jean-Claude Juncker, relançant finalement le débat sur la création d'une armée européenne. Bonjour Michel Barnier.
Bonjour.
Merci de nous accorder votre première interview depuis que vous avez été désigné conseiller spécial pour la politique de défense cette sécurité européenne par Jean-Claude Juncker. Alors, quel est votre... Finalement, c'est quoi ? Construire les bases d'une future armée européenne ?
Jean-Claude Juncker est le président de la Commission. C'est un homme politique dont la principale priorité est aujourd'hui, et celle de tous les citoyens, le retour à la croissance, l'emploi, mais qui sait aussi que la deuxième grande préoccupation des Européens, c'est la sécurité, leur sécurité. Et quand je parle de sécurité, je parle aussi bien de la sécurité écologique que de la lutte contre le terrorisme ou de la stabilité de l'Europe dans tout son voisinage. Et donc je pense qu'il a voulu, je sais qu'il a voulu provoquer le débat et il a eu raison de le faire. Parce que, comme le disait Javier Solana, qui sait de quoi il parle, si c'est pas maintenant qu'on relance un débat sur la sécurité des Européens, sur leur capacité de se protéger ensemble, voire de se défendre ensemble, ça sera quand ? Donc c'est le moment de lancer ce débat.
Voilà, Javier Solana, évidemment, l'ancien haut représentant de l'Union Européenne sur les questions d'affaires étrangères. Bonjour Nicolas Grosvérède. Alors, auteur du blog Bruxelles 2, le blog francophone de référence, consacré à la politique étrangère de l'Union et puis l'Europe de la défense. Finalement, Nicolas, le message de Jean-Claude Juncker, il est quand même très clair. Les Russes ne comprennent que la force. Si l'Europe veut être prise au sérieux, le soft power, c'est bien, mais elle doit aussi avoir des muscles, notre bonne vieille Europe.
C'est un peu ça, mais je pense que par rapport à la Russie, c'est un message global qu'il faut avoir. La meilleure arme, je dirais, pour l'instant, vis-à-vis du dialogue sur la Russie, parce que le projet d'armée européenne, c'est éventuellement un projet à très long terme. Ça va pas résoudre la crise aujourd'hui. Je pense que si on coupe les Russes de leur marché du gaz en faisant une autonomie énergétique, c'est ça qui leur fera peur. Ça n'aura pas un effet immédiat, mais ça aura un effet à très court terme sur Gazprom qui se dira « je suis en train de perdre mes marchés ».
Pourquoi l'Europe n'est-elle pas encore parvenue à s'unir sur le plan militaire ? Quels seraient les gains économiques d'une véritable Europe de la défense ? Je rappelle que nous sommes sur BFM Business. Vaut-il mieux préserver le chacun chez soi sur des questions aussi stratégiques ? L'Europe peut-elle être prise au sérieux sans moyens militaires ? Nous parlerons dans cette émission notamment avec Michel Alliot-Marie ainsi qu'avec un eurodéputé britannique. Faut-il créer une armée européenne ? Voilà le programme de 500 millions d'Européens cette semaine pour réagir, hashtag 500ME. Avant d'en venir à l'idée d'une armée européenne, bon, un peu de contexte. Jean-Claude Juncker, c'était il y a tout juste 2 ans, c'était en mars 2013, disait à l'époque, il était encore Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, il disait « Ceux qui croient que la question de la guerre et de la paix ne se pose plus pourraient peut-être gravement se tromper. Les démons ne sont pas partis, ils dorment. » Seulement. En clair, beaucoup pensaient également la veille de la Première Guerre mondiale que l'Europe ne vivrait plus jamais une guerre. Michel Barnier, vous partagez ce constat de Jean-Claude Juncker ?
Mais évidemment, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis très heureux qu'il m'ait demandé de l'aider personnellement, comme son conseiller spécial sur ces questions, mais il y a aussi au sein du collège de la Commission, Federica Mogherini qui a un rôle majeur, central sur ces questions comme haute représentante, et puis d'autres commissaires qui travaillent notamment sur les questions économiques liées à la défense. La promesse de paix que nous nous sommes fait depuis 1950 avec la communauté du charbon et de l'acier en 57 avec le traité de Rome, elle a été tenue entre nous et avec tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont adhéré à la même promesse. Il faut le redire aux citoyens, cette promesse de paix a été respectée et de stabilité, de démocratie entre nous à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. Mais la guerre n'est pas loin. Elle n'a pas été loin dans les Balkans avec ce massacre de Srebrenica, souvenez-vous, il y a quelques années seulement chez nous, à quelques heures d'avion. La guerre est naturellement aussi présente à l'est de l'Ukraine. Elle est de l'autre côté de la Méditerranée avec la Syrie et l'Irak. Et donc Jean-Claude Juncker a eu raison il y a 2 ans. Il a raison aujourd'hui d'appeler à la vigilance.
Là, on est vraiment dans un moment d'incertitude profond.
Oui, et de grandes inquiétudes parce que sur tous les conflits de notre voisinage, et c'est bien ça d'abord dont il s'agit, que l'Europe soit crédible, qu'elle soit forte sur tout ce qui touche à son voisinage ou à ses marches, naturellement l'Ukraine, aujourd'hui, c'est l'actualité conjoncturelle dans laquelle Jean-Claude Juncker s'est exprimé. Mais moi, je partage absolument l'avis de Nicolas Grosvéret sur le fait que on ne crée pas une défense européenne, on n'ira pas vers une sorte d'armée européenne un jour, pour des raisons conjoncturelles liées à l'actualité d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus inscrit dans le moyen et le long terme.
Alors Nicolas Grosvéret, spécialiste de ces questions de défense, en gros ce que dit Jean-Claude Juncker si on parle de la Russie de Poutine, c'est que les responsables européens, quand ils vont au Kremlin ou quand ils reçoivent Poutine, en gros ils ont le sentiment que Poutine les regarde en disant « Non mais attendez, l'Europe, combien de divisions ?»
La question est très simple. Qui est venu aider les Européens au Tchad en 2008 pour 4 hélicoptères ? 4 hélicoptères. On est obligé de quémander l'aide de la Russie. Je pense qu'à Moscou, on s'en souvient un petit peu de la façon dont, quasiment à genoux, les Européens suppliaient les Russes de bien vouloir envoyer leurs hélicoptères pour 4 hélicoptères. C'est-à-dire que les Européens, tout confondus, étaient incapables de mettre 4 hélicoptères dans une situation relativement maîtrisée ou maîtrisable. Donc cette situation-là...
Donc là, Poutine, il se dit quoi ?
Il se dit clairement, ça ne compte pas. Donc je peux y aller.
Ouais.
Et en Géorgie...
Et ça, en Ukraine, à votre avis, c'est clair, ça ne compte pas, on peut y aller. En Géorgie, à l'époque...
Est-ce que les Européens oublient ? C'est qu'il le dit par rapport aux Européens, mais par rapport aussi aux Américains ou par rapport à l'OTAN. Quand il y a eu l'intervention russe en Géorgie en 2008, au même moment... Les Américains n'ont pas bougé. L'OTAN n'a pas bougé. Donc c'est pas l'OTAN contre l'UE, c'est pas les Européens contre les Américains, c'est le continent européen est incapable aujourd'hui de réagir par rapport à ces menaces, à ces frontières.
Enfin, a priori, on ne bougerait pas plus avec une armée européenne, parce que là, on est plus dans la logistique, j'imagine. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas un commandement centralisé...
On bougerait encore moins, mais l'armée européenne a une capacité, ou une armée capable d'agir, est une armée qui est déjà dissuasive. Le but n'est pas automatiquement qu'elle agisse. Le but est qu'elle soit capable. Après, on n'est pas capable.
Michel Barnier.
Nous parlons de la Russie qui est un grand pays et qui est une puissance qui revient sur le devant. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance quand vous regardez l'histoire et même le reste du monde aujourd'hui? Une puissance, c'est une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense. Nous n'y sommes pas.
Sur aucun des quatre tableaux.
Non, ce n'est pas vrai. Nous avons une économie, le marché unique que j'ai eu l'honneur de gérer pendant ces 5 dernières années. Nous avons une monnaie que nous défendons et qui d'ailleurs fait que nous sommes respectés partout dans le monde et qu'elle devient une monnaie de référence, l'euro. Nous commençons à avoir une politique étrangère et une défense qui va avec. Mais ça ne s'improvise pas. Ça ne se décrète pas, surtout dans la crise ou dans l'urgence. Il faut avoir mis ensemble autour de la même table des gens qui travaillent sur les sujets géopolitiques, géostratégiques, les diplomates. Et c'est ça le lieu pour lequel moi j'ai tant plaidé comme patriote et comme européen dans les différentes négociations de traités depuis une quinzaine d'années. Ce lieu qui a été enfin créé, qu'anime aujourd'hui Federica Mogherini, qui est un lieu de culture diplomatique commune, où on met ensemble les stratèges, les diplomates, tous ceux qui ont des idées. Et dans ce lieu-là, je veux dire que les 28 pays de l'Union européenne ont une valeur ajoutée, même s'ils viennent de loin et même s'ils ne viennent pas du même endroit, parce que leur échelle de priorité est très différente. Selon qu'on est dans les pays baltes, ou en Pologne, ou en Italie, ou en Espagne, on n'a évidemment pas les mêmes critères de priorité. Donc il faut rapprocher les points de vue. C'est comme ça qu'on arrivera à une politique étrangère commune et qu'on arrivera à une défense commune.
Alors justement, les points de vue divergent en fonction de l'endroit où on se trouve en Europe. Alors direction la Roumanie maintenant. Bonjour Christian Preda.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes eurodéputé roumain, membre de la commission des affaires étrangères au Parlement européen. À votre avis, est-ce que la Russie de Poutine constitue une menace pour l'Europe ? Est-ce que vous avez le sentiment que les Européens vraiment de l'Ouest sont un peu trop naïfs ?
Oui, effectivement, la Russie est une menace pour l'Europe parce que la guerre qui a été déclenchée par les Russes il y a un an, c'est une guerre inter-européenne. Je crois que personne ne doute de ça.
Donc c'est pas à nos portes, c'est pas à nos portes, c'est chez nous.
Bien sûr, et il y a des peurs terribles et dans les États baltes. qui craignent que le prochain pas sera l'un de ces États, et dans des pays comme la Roumanie qui croient que le prochain pas de Poutine sera la Transnistrie, c'est-à-dire la constitution d'un lien entre la Crimée et la Transnistrie. C'est pas du tout exclu, et ça crée d'ailleurs toute la tension en Europe. C'est pour cela que je considère très bienvenue l'intervention de Jean-Claude Juncker, qui a dit d'ailleurs cette armée, c'est pas pour l'utiliser tout de suite, mais c'est pour renforcer la politique étrangère de l'Union. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de 15 ans, au sommet de Helsinki, les États membres avaient décidé que jusqu'en 2003, il y aura une capacité de ces États de déployer dans 2 mois des forces militaires qui, pour un an, pourraient comprendre entre 50 et 60 000 personnes et qui seraient capables d'effectuer toutes les missions Petersberg.
L'article 5 de l'OTAN précise bien que les Russes ne peuvent pas s'attaquer à un État qui fait partie de l'OTAN parce qu'il y a un accord de protection. C'est-à-dire qu'on touche à un État membre de l'OTAN, tous les autres interviennent. Nicolas,
à condition qu'il soit membre de l'OTAN. La Finlande n'est pas membre de l'OTAN. Donc il faut. On a une vision très française, je pense, de considérer que l'Europe, c'est un peu la France déformée et que la France agit et tous les autres n'agissent pas. Il y a différents États en Europe qui peuvent avoir des ressentis, des besoins totalement différents. Ce que je voudrais dire, moi, sur le, effectivement, Christian Preda a eu raison de rappeler Helsinki. Le problème des Européens, c'est qu'ils s'engagent toujours avec des choses magnifiques et que ces engagements sont jamais tenus. Helsinki, il l'a rappelé, avait mis en place une force de 50-60 000 hommes qui est restée sur un bout de papier. En France, souvent, on considère l'armée européenne comme une espèce d'idée chimérique, impossible à faire, etc. D'une certaine façon, on a raison, parce que c'est une chimère. Mais l'Europe a vécu de chimères qui se sont de temps en temps réalisées. La deuxième chose, c'est que la chimère que les défenses nationales pourront continuer tout le temps avec des budgets qui vont être de plus en plus étriqués et des armées de plus en plus réduites, ça veut dire que c'est également une chimère quand on se projette à 10 ou 20 ans.
Michel Barnier.
Je reviens un instant à la Russie. Il ne s'agit pas naturellement de monter une armée européenne pour faire face à la Russie. Ne parlons pas d'engagement militaire avec la Russie. En revanche, il faut finalement qu'on parvienne à convaincre M. Poutine de retrouver avec l'Europe et avec les autres régions du monde une relation plus équilibrée dès l'instant où il aura le sentiment qu'il nous respecte et que nous le respectons. Ce que je crois des Russes, les souvenirs très précis que j'en ai lorsque j'étais ministre français des Affaires étrangères, c'est que la vraie crainte qu'ils ont, et Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est celle de l'isolement. L'isolement économique, l'isolement énergétique, l'isolement financier et politique. Et ça peut les faire bouger, notamment à travers le régime coordonné de sanctions qui commence à produire des effets.
Merci beaucoup, Christian Preda, eurodéputé roumain, d'avoir participé à 500 millions d'Européens. Votre intervention était vraiment précieuse. Je rappelle que vous êtes membre du PPE, le Parti Populaire Européen, et que vous siégez au sein de la Commission des Affaires étrangères au Parlement. Merci. À bientôt. Juste après la pause, nous revenons avec nos invités Michel Barnier et Nicolas Grosvered. D'abord sur, tiens, un petit peu d'histoire, hein, la CED, parce que cette armée européenne, eh bien, elle a été couchée sur papier. C'était un projet très concret en 1950, et puis on va revenir sur les raisons du blocage, puis combien ça nous coûte finalement toute cette dispersion. À tout de suite.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio. BFM Business Radio, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Nous parlons défense, nous parlons armée européenne aujourd'hui dans 500 millions d'Européens avec Michel Barnier, conseiller spécial du président de la Commission, Jean-Claude Juncker pour la politique de défense et de sécurité européenne, avec Nicolas Grosvered, auteur du blog Bruxelles 2 consacré à la politique étrangère de l'UE et l'Europe de la défense. Donc Jean-Claude Juncker qui, il y a quelques jours, a dit qu'une armée commune à tous les Européens ferait comprendre à la Russie que nous sommes sérieux quand il s'agit de défendre les valeurs de l'Union Européenne. Tiens, un petit peu d'histoire. Il y a déjà eu un projet avancé d'armée armée européenne à travers la CED, la Communauté européenne de défense, dans une déclaration devant l'Assemblée nationale. C'était en octobre 1950. René Plévin dévoile le projet de la création, je le cite, pour la défense commune, d'une armée européenne rattachée à des institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la défense, sous le contrôle d'une Assemblée européenne, avec un budget militaire commun. C'était en 1950, c'était le projet de CED qui a été torpillé par les Français qui ne voulaient pas que ce soit un projet un peu inféodé aux États-Unis, c'est ça, que ce soit sous commandement militaire américain et dans le cadre de l'OTAN, c'était ça la principale raison, Nicolas ?
Il y avait que ça soit inféodé tout court.
D'accord, tout
et
court.
Les Français ont toujours tenu à leur indépendance en termes militaires.
Du coup, en 57,
finalement, on a fait l'OTAN.
Voilà, le traité de Rome qui institue la communauté économique européenne n'évoque même pas ce domaine, donc à cause de l'échec de la CED. Le projet reprend de la vigueur en 93 avec le traité de Maastricht, l'instauration de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. En 2004, je fais vraiment une histoire raccourcie, l'Agence européenne de défense est créée. En 2009, le traité de Lisbonne affiche de grandes ambitions en matière de sécurité et de défense, avec pour objectif le développement d'une défense européenne. Michel Barnier, pourquoi finalement créer une armée européenne? Pourquoi ça bloque? Parce que quand on regarde, si on réunit les budgets de tous les 28, les Européens dépensent 190 milliards d'euros par an dans leur défense. C'est 40% de ce que les États-Unis consacrent à leur budget militaire, mais la force de frappe européenne n'atteindrait que 10% d'après des études, 10% à peine de la capacité opérationnelle de la US Army. C'est quand même un problème.
On peut citer les sujets concrets où la Commission européenne, par ses politiques, par ses budgets, par son expertise, a une valeur ajoutée pour encourager la création de cette Europe de la défense. La sécurité d'approvisionnement, la meilleure utilisation des marchés publics, la recherche dont nous avons proposé qu'elle puisse intervenir à la fois de manière duale sur des matériels stratégiques ou civils. Des programmes communs comme pour les drones qui peuvent également avoir un usage civil pour la surveillance des frontières. L'énergie. L'armée, les bases militaires sont les plus consommatrices d'énergie. Il y a des économies à faire. Les développements de capacités dans le domaine de l'espace. La question de la fiscalité aussi que le commissaire français pourra étudier. Et puis enfin, un sujet auquel je tiens beaucoup et qu'on peut relier à ces menaces extérieures, c'est savoir qui achète quoi chez nous. La mesure, l'observation des investissements stratégiques des autres chez nous en Europe pour qu'on sache qui achète quoi en Europe. L'observation, je pense qu'il faut créer un observatoire des investissements stratégiques en Europe. Donc, qui achète quoi en Europe? Certains pays mesurent ou empêchent des investissements étrangers de venir acquérir des investissements stratégiques ou des actifs stratégiques sur leur territoire. L'Europe ne s'est pas dotée d'une telle capacité commune comme les Américains, les Chinois ou les Russes l'ont. Je pense qu'on devrait être capable aujourd'hui de savoir qui achète quoi chez nous et aussi de préserver par notre technologie, par de la recherche, les actifs stratégiques.
Nicolas, on parlait de la dispersion. Donc on voit, on produit actuellement en Europe 4 chars de combat différents, le Leclerc en France, le Léopard en Allemagne, le Challenger au Royaume-Uni, l'Ariete en Italie. Il y a 23 types de véhicules de combat blindés, il y a 3 modèles d'avions de chasse, 89 programmes d'armement européens, et puis bien entendu, manque de coordination oblige, parfois les avions des uns ne peuvent pas se poser sur les porte-avions des autres. Je veux dire, c'est n'importe quoi.
Mais c'est tout l'enjeu de l'armée européenne, je dirais, qui est plus un concept aujourd'hui, qui derrière amène à réfléchir sur comment on va fonctionner ensuite. Il faut voir que vous parlez de 10%, mais je dirais que pour moi c'est très simple. Vous prenez la frontière européenne, l'Est et le Sud, il n'y a personne. C'est très simple. Il n'y a plus une armée capable aujourd'hui de défendre ses frontières sur cet axe Est-Sud. Parce que soit ils sont liquidés par les budgets, par les restrictions budgétaires, soit ils n'ont pas fait de réforme de restructuration, ça veut dire qu'il n'y a personne. On a la France, l'Allemagne, les Américains et le Royaume-Uni. Voilà. Et au nord, éventuellement, Suédois et Finlandais. C'est tout le problème aujourd'hui, tout l'enjeu de la défense européenne, qu'elle soit Europe de la défense, qu'elle soit OTAN. Tant qu'il n'y a pas les Américains avec, les Européens ont du mal à agir tout seuls.
Mais Michel Barnier, par exemple, il y a des études qui ont montré qu'avec une meilleure mise en commun des moyens, on pourrait réaliser au bas mot 26 milliards d'euros d'économies chaque année en Europe, et on pourrait même gagner en efficacité. même en faisant des économies, on serait plus efficace qu'aujourd'hui. Pourquoi on ne le fait pas en période de crise?
Parce que la volonté politique a manqué jusqu'à présent, qu'on a consacré notre énergie et beaucoup de volonté à l'Europe économique, à l'euro, et qu'en même temps, peut-être cette volonté a manqué pour d'autres enjeux qui sont pourtant vitaux, et donc c'est le moment.
Mais qu'est-ce qui bloque? C'est la souveraineté? On regarde jalousement.
Nous parlons de l'armée, nous parlons de la capacité d'engager des troupes, des soldats, de les envoyer sur des fronts, le cas échéant, de perdre la vie. Donc il faut comprendre que cette capacité-là doit rester celle de chaque gouvernement souverainement vis-à-vis de ses citoyens. Ça n'interdit pas la mutualisation progressive qu'il faut relancer pour faire plus d'efficacité, plus de lisibilité et également plus d'économie. L'argent public manque. Nous n'avons aucune excuse de ne pas mutualiser davantage. Vous avez cité l'exemple de la défense, où on pourrait économiser 20 à 30 milliards par an. J'ai en mémoire un autre exemple que je peux donner à nos auditeurs, qui est celui des marchés publics, dont d'ailleurs fait partie un secteur de la défense en grande partie. Si on numérisait la commande publique en Europe, qui représente 17% du PIB, on économiserait 80 milliards par an de paperasse pour les entreprises et pour les donneurs d'ordre.
Voilà, on faisait une liste, en se posant la question, qu'est-ce qu'on ferait si on était moins bête? On arriverait à quand même un annuaire, non?
Mais les dirigeants européens sont intelligents. Quelquefois, il leur manque la complicité entre eux et l'énergie ou la volonté politique.
Michel Barnier, dernière question pour vous. Est-ce que vous avez le sentiment que vous verrez de votre vivant une armée commune européenne, ou vos enfants, ou plutôt vos petits-enfants?
Moi, je pense que le projet européen est au milieu de son chemin, qu'on a bien fait de commencer par l'économie, parce que quand on est à Washington ou à Pékin, la première raison pour laquelle on nous respecte, c'est pas la défense pour l'instant, c'est pas encore la politique étrangère, c'est notre marché unique de 500 millions de consommateurs. Un marché, une monnaie, que nous consolidons notamment grâce au rôle de la Banque Centrale Européenne et aux efforts communs des uns et des autres. Je ne sais pas si c'est mon vivant, mais je pense que si nous sommes au milieu du chemin, c'est-à-dire une cinquantaine, une soixantaine d'années parcourues déjà, il en reste une cinquantaine devant nous pour arriver à cette Europe politique que Jean-Claude Juncker... Je ne sais pas si on arrivera à une armée commune. Je ne sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs qu'on arrive à tout fédérer. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'avoir des capacités communes, d'avoir une capacité de projection à l'extérieur. N'oubliez jamais ce qui est écrit dans un document que vous n'avez pas cité dans le long chemin d'histoire de la défense européenne, c'est Saint-Malo, 98. Un document rédigé entre les Français et les Britanniques, qualifiant le projet de défense européenne d'autonome et de solidaire. Solidaire dans notre alliance atlantique et autonome. Nous n'y sommes pas, et c'est ça qu'il s'agit de construire maintenant.
Alors justement, un Britannique, on parlera avec un conservateur britannique juste après le journal. Comment la proposition de Jean-Claude Juncker de créer une armée européenne a-t-elle été perçue en Europe? Merci beaucoup Michel Barnier, conseiller spécial de Jean-Claude Juncker pour la politique de défense
et
sécurité commune, d'avoir été avec nous. Nicolas Grosveret du blog Bruxelles 2, vous restez avec nous. Donc après la pause, nous serons notamment en ligne avec un eurodéputé conservateur britannique et son avis sur la proposition de Jean-Claude Juncker. Eh bien, je ne vous fais pas de dessin.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Le président de la Commission se verrait bien en commandant en chef des troupes européennes. Je le cite, une armée commune à tous les Européens ferait comprendre à la Russie que nous sommes sérieux quand il s'agit de défendre les valeurs de l'Union Européenne. Voilà, c'est ce que vient de déclarer Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, relançant en quelque sorte le débat sur la création d'une armée européenne. Un débat qui dure depuis quelques temps, comme on l'a dit il y a quelques minutes, même en 1950 avec la CED, on parlait déjà d'une armée européenne. Bon, un projet qui avait été enterré à l'époque, en 54, par la France. En tout cas, bon, maintenant, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie seraient a priori partantes pour une armée européenne. Nous sommes en ligne, nous serons en ligne dans quelques instants avec Michel Alliomari et puis également avec un eurodéputé conservateur britannique. Voilà, comment la proposition de Jean-Claude Juncker a-t-elle été reçue par les différents États membres? C'est le programme de cette nouvelle partie de 500 millions d'Européens. Pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME. Voilà, du côté français, si on s'attarde sur les réactions dans les différentes capitales européennes après cette idée relancée par Jean-Claude Juncker, bah écoutez, en tout cas, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, a visiblement été un peu surpris et serait dubitatif, car du côté du ministère de la Défense, eh bien, on se heurte hein, quotidiennement aux réalités européennes en matière de défense. Et Jean-Yves Le Drian qui a dû en fait même pousser des gueulantes hein, auprès de ses homologues ces derniers temps, d'abord pour obtenir la création d'une nouvelle mission européenne en Centrafrique, puis à Riga pour que les États membres acceptent de fournir les personnels. Il s'agissait de trouver là à peine 40 officiers, sachant que la France en fournissait déjà 20. Vous êtes surpris, vous, Nicolas Grosverrette, que la France se montre dubitative au lieu de finalement d'appuyer cette initiative de Jean-Claude Juncker à Paris. On se dit, bon, il est bien gentil à Bruxelles, mais on a l'impression qu'il connaît pas vraiment la réalité du terrain.
Non, ce que dit Le Drian est vrai. Toutes les opérations actuellement qui ont été montées ont eu beaucoup de mal à se monter parce qu'on veut pas prêter les personnels. Il y a des problèmes politiques et des problèmes financiers, donc on compte jusqu'au compte-gouttes. Et la plupart des États qui jusqu'à présent étaient assez volontaires, par exemple comme
mais ça c'est
comme
parce qu'il n'y a pas d'élan politique, c'est parce que ça on est sur des points logistiques un peu techno.
Il n'y a aucun élan politique et surtout que c'est le problème, c'est le cumul des blocages. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation politique de tout le monde, mais ensuite c'est chacun qui paye. Donc vous avez l'imaginaire fonctionne, il n'y a pas besoin de savoir si c'est vous qui payez et que c'est les autres qui profitent, vous n'allez pas bénéficier.
Michèle Alliot-Marie est en ligne avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes maintenant eurodéputée UMP, évidemment ancienne ministre de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et puis de la Défense. Michèle Alliot-Marie, comment avez-vous accueilli, vous, cette déclaration de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en faveur d'une armée commune ?
Une armée commune ou une armée européenne, c'est une formule. Il faut savoir qu'est-ce que l'on met derrière. D'abord, pourquoi avons-nous des intérêts communs à nous défendre ensemble ? Oui, c'est une évidence. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre de certains conservateurs britanniques, par exemple, nous avons des défis communs tels que le terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme né de l'intégrisme islamique menace chacun de nos pays. À n'importe quel moment, vous pouvez avoir des attentats, on l'a bien vu. Donc nous avons cet intérêt. Deuxièmement, il peut y avoir des besoins aussi de se défendre. Jean-Claude Juncker parle éventuellement d'influence, de dissuasion à l'égard de la Russie, mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels c'est important. Troisièmement, nous avons également des intérêts communs pour faire prévaloir un certain nombre de nos valeurs. C'est par exemple ce qui nous a conduit à aller en Afghanistan. C'est aussi ce que la France a essayé de faire dans ses interventions en Afrique. L'Afrique, c'est notre continent le plus proche, avec des problèmes multiples qui se posent et qui se traduisent notamment par toutes les questions migratoires qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui. Et il est évident que l'Europe ne peut pas s'en désintéresser. Si on veut peser, si on veut être capable d'intervenir, si on veut être capable de dissuader, il faut avoir une force militaire qui nous permette de le faire. L'Europe, c'est une puissance économique. Elle doit également s'exprimer en tant que puissance politique.
Et justement, une puissance économique, mais Michèle Alliot-Marie, est-ce qu'on a l'argent aujourd'hui ? Parce qu'on a le sentiment que créer une armée, une force européenne, c'est faire des économies. Mais quand on voit certaines réactions à travers l'Europe, comme en Finlande, avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, Tuomioja, qui déclare que les pays européens n'ont pas la possibilité ou l'argent pour créer des forces armées conjointes. Pareil, même son de cloche du côté de la Pologne, où le même, son homologue, un ministre des Affaires étrangères, lui se dit sceptique parce que, eh bien, on a un problème de financement. Suffit de regarder la Belgique. En Belgique, à peine 0,5% du PIB est consacré à la défense. Il faudrait beaucoup plus, il faudrait que chacun mette beaucoup plus pour participer à un vrai projet commun.
Bien entendu, je vais y revenir, mais ça n'est pas le seul problème. C'est-à-dire que lorsque l'on parle d'une armée européenne, il ne s'agit pas, à mes yeux, d'avoir une armée unique avec un commandant en chef unique, comme vous le disiez. Mmh. Il s'agit beaucoup plus de coordonner les possibilités, les capacités militaires des différents pays européens. Et là, nous tombons sur le problème que vous évoquez.
Donc qu'on soit complémentaires, qu'on soit tous complémentaires.
C'est des complémentaires, c'est mieux harmonisé. Ce sont d'ailleurs des choses que j'ai faites lorsque j'étais ministre de la Défense, puisque j'ai relancé à la demande de Jacques Chirac l'Europe de la Défense. Et je pense que pendant les 5 ans et demi où j'ai été ministre de la Défense, jamais l'Europe de la Défense n'a autant... Nous avons créé des forces d'intervention communes, des forces d'intervention rapide communes. J'ai créé l'Agence européenne de défense. Nous avons fait beaucoup d'actions en matière d'entraînement commun, notamment dans le cadre de la lutte NRDC. Nous avons également monté des opérations de matériel militaire en commun, avec l'Allemagne, bien entendu, en ce qui concerne notamment les hélicoptères, avec l'Italie, en ce qui concerne les vedettes, etc., etc. Donc l'Europe de la défense, c'est quelque chose qui avance et qui ne veut pas dire forcément simplement une armée commune. Parce qu'il est vrai aussi qu'il y a des niveaux de préparation, des niveaux de professionnalisme des armées européennes, des niveaux de moyens financiers qui sont extrêmement différents. Et effectivement, vous avez raison, vous avez très peu d'armées qui soient en mesure de faire des interventions importantes en Europe. Vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne et ensuite vous avez des armées qui sont à un niveau très inférieur.
Alors Michel Alliot-Marie,
je dénonce d'ailleurs un certain nombre de pays qui, chaque fois qu'ils ont un problème avec leurs ressortissants, se tournent vers les armées capables d'intervenir, c'est-à-dire notamment vers la France. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans un bon nombre d'autres pays. Et puis de leur côté, ils ne font rigoureusement rien et ils demandent à la France de respecter les critères de Maastricht en intégrant tous les moyens de défense européens que eux-mêmes ne mettent pas.
Quand on voit par exemple en Estonie, là, le président de la commission estonienne des affaires étrangères, Marko Mikkelson, lui, il soutient cette idée, mais pour lui, d'une armée européenne, mais il dit quand même, ça fera doublon avec l'OTAN, et ça renforcera pas franchement la sécurité européenne. Vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas du tout. Je pense que c'est une mauvaise connaissance du fonctionnement de l'OTAN. Il faut bien voir une chose, c'est que l'OTAN a deux bases, en quelque sorte, deux piliers géographiques. L'un qui sont les États-Unis et le Canada, l'autre qui est l'Europe. Et puis nous avons quelques pays extérieurs à l'un et l'autre. Mais l'essentiel repose là. Et l'OTAN et une défense européenne, comme je le plaidais il y a quelques années, ont des rôles qui ne sont pas doublons, mais qui sont au contraire complémentaires. Notamment à travers la défense européenne, les forces d'intervention rapide, nous avons une capacité d'agir d'une façon plus souple, plus rapide et plus légère. Et donc, cela peut permettre, en intervenant très vite, d'empêcher le développement d'un certain nombre de crises. En revanche, lorsqu'il s'agit de crises de longue durée ou qui demandent des moyens importants, à ce moment-là, c'est tous ensemble qu'il convient d'agir.
Merci beaucoup, Michel Alliot-Marie, ancienne ministre de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense. Et maintenant, eurodéputé UMP, merci beaucoup d'être intervenu dans 500 millions d'Européens. À très bientôt.
Merci à vous.
Voilà, on a pu faire un petit tour d'Europe, vu de France, avec Michel Alliot-Marie. Tiens, maintenant, quand on pose la question de la création d'une armée commune, Michel Barnier nous parlait tout à l'heure de Saint-Malo. Évidemment, on se tourne vers les Britanniques. Bonjour Charles Tannock.
Bonjour.
Alors vous êtes eurodéputé conservateur. Bonjour. Britannique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Charles Tannock, de cette idée de Jean-Claude Juncker, relancée par Jean-Claude Juncker, d'une armée commune européenne?
C'est un peu, à mon avis, fantaisie, en fait. Le gouvernement britannique ne sera jamais d'accord avec ça. À mon avis, il n'y aura pas de soldats qui veulent mourir pour le drapeau européen. Il n'y a pas, disons, une langue, on va utiliser quoi? L'anglais, le français, l'estonien, c'est très difficile dans une armée unifiée.
Mais vous pouvez avoir deux drapeaux sur l'épaule. Vous pouvez avoir deux drapeaux. Vous pouvez avoir le drapeau britannique et le drapeau européen.
Oui, mais on peut faire ça. Il y a déjà la politique de défense et sécurité en commun. On peut avoir des missions militaires européennes. mais chaque État doit donner leur contribution militaire, et ça reste sur les commandes nationaux, et le budget, les paiements sont faits pour les États-nations. C'est, à mon avis, c'est vraiment une question de, aussi une menace au rôle de l'OTAN, du net.
L'essentiel
maintenant, c'est de dépenser les 2% du PIB national. Ça, c'est le problème, que les Européens, on ne dépense pas suffisamment d'argent pour avoir des forces militaires crédibles. Ça, c'est le grand problème. Pas l'idée de créer une nouvelle structure, une armée européenne et tout ça. Ça, c'est vraiment bâtir une nation qui s'appelle l'Europe, et dans un pays comme le mien, l'Angleterre est assez eurosceptique. Ça, c'est vraiment, vraiment inacceptable.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Gros, quand vous écoutez Charles Stanock?
Ce qu'il faut poser, c'est la question dans 20 ans, d'ici 20 ans, est-ce que Charles Stanock, vous êtes sûr que les Britanniques n'auront jamais besoin de l'aide européenne? Jamais?
Charles Stanock?
Écoutez, moi je suis un politicien, je suis élu pour 5 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui sera passé en Europe dans 20 ans, 30 ans.
Vous n'êtes pas en train de nous dire, Charles Stanock, qu'un homme politique ne raisonne qu'à court terme?
Non pas à court terme, mais disons-nous que pour l'instant, il n'y a pas la volonté politique dans les États membres de l'Union européenne de construire une armée, une nouvelle structure. Il faut vraiment établir les systèmes qui existent déjà. On a déjà des missions militaires européennes qui fonctionnent très bien, pour exemple, l'antipiraterie dans l'océan Indien et une affaire Atalante, une mission navale, tout ça.
Une mission navale, Charles Stanock, que le Royaume-Uni...
Qu'est-ce qui fonctionne? Mais il y a beaucoup de pays, à mon avis, les neutrales, les Autrichiens, les Suédois, les Finlandais, tout ça. À mon avis, je ne sais pas s'ils veulent être d'accord avec ça. La Grèce, par exemple, maintenant est très pro, le nouvel gouvernement grec est très pro-Poutine, pro-Russie. Ils veulent faire une chose pareille, une armée européenne. Je suis un peu sceptique, en vrai. Hein. Écoutez, à mon avis, il n'y a personne en Europe dans la classe politique qui veut avoir des soldats en Ukraine à faire une guerre contre la Russie. Les sanctions économiques, c'est une chose. Avoir une force militaire en Ukraine qui est en pleine guerre, en pleine lutte contre les forces russes, ça, c'est à mon avis,
d'accord.
Pas une chose.
Ça, c'est en Ukraine, et comme disait Nicolas Grosverret tout à l'heure. Et si jamais il se retrouve en Finlande?
Oui, et en Finlande, oui, ok, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, mais les Finlandais ont déjà eu une guerre avec la Russie en 1938-39, ils ont gagné contre la Russie, ils ont leur force, leur armée assez forte, et c'est bien établi. Et à mon avis, il faut donner des armements aux pays qui souffrent. Moi, je suis d'accord, on envoyait des armements aux forces armées ukrainiennes maintenant. Je suis pleinement d'accord de donner l'équipement occidental plus avancé aux forces ukrainiennes, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir mes soldats là à mourir pour la patrie ukrainienne, ça c'est absurde.
Voilà, merci infiniment. Charles Stanock, britannique, eurodéputé conservateur, d'être intervenu dans cette émission. 500 millions d'Européens, et je pense d'ailleurs que s'il ne tenait qu'à vous, ça s'appellerait plutôt 435 millions d'Européens, cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nicolas Grosverret, du blog Bruxelles 2, qui est donc spécialisé sur les questions de défense. Bon, on a compris, Charles Stanock, c'est pas son truc, une armée européenne, mais en plus, si on voulait faire une armée européenne, faut être lucide, sans les Britanniques, ça aurait pas beaucoup de sens, parce que vraiment, les deux poids lourds en Europe, c'est la France et le Royaume-Uni.
Ce qu'a dit Charles Stanock, c'est excellent quand même, parce qu'on vient de voir Charles Stanock qui devient un défenseur fervent des opérations de la PSDC, alors qu'on voit que son parti, le Royaume-Uni, depuis 5 ans, s'oppose à toutes les opérations PSDC, notamment l'opération anti-piraterie, que le Royaume-Uni a essayé de torpiller du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, il se vante de cet exemple même de l'Europe projetée à l'extérieur. Donc c'est déjà un premier pas qu'a réussi Juncker avec sa proposition d'armée européenne, c'est que pour ne pas avoir une armée européenne, les Britanniques sont prêts à soutenir toutes les opérations de la PSDC. Moi je remercie Charles Stanock, on va voir si ça a suivi des faits ensuite. Sur le fait du Royaume-Uni, c'est faux. Le Royaume-Uni a justement très peu participé aux opérations européennes, quasiment peanuts, on va dire, moins que l'Estonie. Sur certaines opérations, ils participent pas plus que Chypre. Donc, on peut très bien monter une armée européenne sans les Britanniques. Mmh. C'est ça la grosse crainte du Royaume-Uni, c'est que le continent se fédère et qu'il soit un peu exclu, alors que dans l'OTAN, en fait, il joue le go-between entre, on va dire, les États-Unis et le continent. Et le lien important, c'est entre la France et l'Allemagne et une série d'autres pays. Je voudrais revenir sur l'aspect de la petitesse. Et
sachant que l'Allemagne ne veut pas se militariser.
L'Allemagne, sous ce gouvernement-là, c'est d'ailleurs Steinmeier qui l'a dit, d'ailleurs ce que dit Juncker, c'est quasiment ce que disait Steinmeier il y a quelques mois, l'Allemagne ne peut pas ne pas se préoccuper des questions de défense, elle ne veut pas se préoccuper de la marge du monde, et si elle ne veut pas se préoccuper de la marge du monde, elle doit avoir une politique étrangère et une défense. Mm-hmm. Et c'est grosso modo ce que dit Juncker. Donc on peut très bien avoir un système où certains pays vont en premier, et l'Allemagne assure, je dirais, le suivi derrière de façon un peu plus solide. L'Allemagne, il lui faut du temps pour intervenir. Mmh. C'est pas elle qui, en 24 heures, comme la France, va y aller. Je voudrais juste revenir sur un aspect, par exemple, des Belges. On vous dit, et c'est vrai, les Belges dépensent peu. Mais ils dépensent peu depuis quelque temps. Ils ont réussi à diminuer leur budget. Ils dépensent intelligemment puisqu'ils ont mis en commun la marine avec les Néerlandais. Ils mettent en commun leur surveillance aérienne. Ils mettent en commun certaines écoles. Et ils arrivent malgré tout, malgré une diminution importante de leur budget, à être présents dans certaines opérations plus que d'autres. Donc, ça montre que même avec un budget relativement limité, on peut arriver à projeter à l'extérieur, à garder certaines forces. Le problème, c'est de le faire intelligemment et de pas te couper et de sabrer n'importe comment. Or, actuellement, donc la première chose à faire pour répondre à ces questions, ça serait que les Européens se disent, bon, on doit sabrer dans les budgets, parce que c'est la réalité, il faut pas se leurrer, c'est pas demain qu'on va retourner un budget de 2%, même ce que dit Charles Tannock, c'est faux, les Britanniques vont passer au train où vont les projets du gouvernement au-dessous de la barre des 2% eux-mêmes. Donc, il faudra tenir compte de cette fait qu'on doit dépenser moins, donc on doit dépenser mieux, donc on doit mettre en commun. Donc il n'est plus question d'acheter 3 porte-avions si un seul suffit, alors que de l'autre côté on manque largement de drones et qu'on manque largement d'hélicoptères. Va falloir en fait répartir l'investissement, et ça peut être fait sans briser les indépendances de chacun, mais pouvoir dire par exemple, sur l'Est, les pays de l'Est, on n'a aucun avion de chasse qui s'équipe et qui le met à disposition. Il peut y avoir des choses assez intelligentes qui sont faites à 2 ou 3. Les Nordiques le font ensemble. Je crois vraiment à cette question, pas d'une armée européenne, mais d'une certaine consistance d'armée au pluriel européenne. C'est-à-dire qu'on aurait une force belgo-néerlandaise, on aurait une force tchèque et slovaque, on pourrait avoir une force suivant les intérêts géopolitiques de chacun des États. Les Baltes ensemble auraient intérêt à se mettre ensemble, par exemple, pour économiser et dépenser chacun de façon intelligente.
Voilà, Nicolas Grosvéret, vous restez avec nous. Juste après la pause, la revue de presse européenne.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio. 500 millions d'Européens sur BFM Business Radio. La revue de presse.
La revue de presse, toujours ici en studio à Bruxelles, avec Nicolas Grosvéret, auteur du blog Bruxelles 2, consacré à la politique étrangère de l'Europe, et puis également à l'Europe de la défense. Et puis Pauline Armandet nous a rejoint. Bonjour Pauline.
Bonjour Anthony.
Alors, dans votre revue de presse, l'Islande qui retire sa candidature à l'Union européenne.
Comme le rapporte le quotidien d'information britannique The Telegraph, cette décision a été prise, je cite, 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique de centre droit qui promettait de mettre un terme au processus lancé en 2009. Bref, alors maintenant c'est fait, sauf que maintenant des questions restent en suspens, comme par exemple les négociations entre Bruxelles et Reykjavik sur les quotas de pêche.
Et parmi les pays qui ont franchement pas intérêt à fâcher qui que ce soit, puisqu'on parlait de défense dans cette émission, mais précisément l'Islande, qui ne consacre, Nicolas, que 0,1% de son PIB à la défense, contre combien pour la France?
On est à 6.
1,6 maintenant à peine, bon, d'accord.
Il faut voir que l'Islande fournit un patrouilleur aux Italiens, ouais, dans le cadre de l'agence Frontex, mm-hmm, sur la lutte contre les immigrants. C'est un des seuls pays qui le fournit. Donc on peut avoir petit budget et action, ouais,
pourtant,
assez déterminée.
Parce qu'ils ont un budget militaire, si on chiffre, de 7 millions d'euros par an. En gros, ils peuvent s'offrir peut-être un avion de chasse tous les 6 ans, et encore sans le carburant.
Les avions de chasse, ils ont choisi, ils sont membres de l'OTAN, et c'est les avions, les pays de l'OTAN qui assurent à tour de rôle la surveillance aérienne de l'Islande. Ça leur coûte. Au prix coûtant.
Voilà. D'un autre côté, en France, alors que je crois que chaque Français verse, pour, dans l'ordre d'idée, 500, 600 euros par an au budget de la défense, chaque Islandais, lui, ne donne que 22 euros.
Voilà. Mais l'Islande n'a pas, je dirais, des territoires d'outre-mer à entretenir, une gendarmerie à entretenir, et je dirais une place dans le monde, une place au Conseil de sécurité, n'est pas non plus une puissance nucléaire.
Alors Pauline, le sud de l'Europe se finance moins cher que les États-Unis. Vous avez lu ça dans le Journal de Noticias portugais.
Le taux d'emprunt en Espagne et au Portugal est en effet actuellement plus bas qu'aux États-Unis. Cette information a été donc reprise par ce quotidien portugais. Alors si tout va pour le mieux pour ces deux pays, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Le dénouement du cas grec et le nouveau programme d'achat de dette publique par la Banque Centrale Européenne y sont pour quelque chose.
Ouais, vous en pensez quoi, vous, Nicolas? Déjà, c'est intéressant qu'on parle de dénouement du cas grec.
Je sais maintenant où investir.
D'accord. Justement, le nouveau programme de la BCE... Parlons-en, Pauline.
La Banque Centrale Européenne a en effet donné cette semaine le coup d'envoi d'un programme de rachat de dette publique. Comme le rapporte le quotidien suisse Le Matin, je cite, « Cette opération va permettre de déverser des centaines de milliards d'euros dans l'économie de la zone euro, dans l'espoir de la redynamiser. Environ 1140 milliards d'euros seront investis dans des obligations souveraines. »
Voilà, merci beaucoup Pauline Armandet pour cette revue de presse. Merci beaucoup Nicolas Grosvered, auteur du blog Bruxelles 2, une référence sur toutes les questions de défense et de sécurité ici à Bruxelles. À bientôt, Nicolas. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Merci également au réalisateur de cette émission, Christophe Bruls, ici à Bruxelles. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera samedi à 11h, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous, à l'écoute de BFM Business.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio.